Bienvenue à la French Connection, un épisode un peu spécial et un peu régulier en même temps, puisqu'on va, aborder la nouvelle, l'actualité avec Steve Waterhouse, mais dans un contexte non normal, puisqu'il était à Québec cette semaine pour l'événement Isaka. Bonjour Steve.
Bonjour Nick.
Donc, commençons avec un retour sur l'actualité, et non l'actualité comme étant dans des nouvelles, mais comme la revue, dans ce cas-ci, qui a donné une réponse un peu plus officielle et un peu peut-être décevante dans certains égards.
Alors donc, d'un point de vue officiel, la revue L'Actualité a répondu justement à ses lecteurs le 3 octobre dernier avec un courrier électronique lui étant adressé de ceux qui étaient présents, de ceux qui ont été victimes de la fuite d'informations, tout comme ceux qui n'ont pas été victimes, et les avertissant comme quoi qu'il y a de l'information personnelle qui a fui. Donc, l'information qu'on avait que j'ai repérée, qu'on a amenée pour l'étude de commune qu'on a faite avec l'équipe du Hackfest. C'était donc les informations nominatives des gens, le courrier électronique, certains avaient les adresses, numéro de téléphone, sexe et mot de passe pour accéder au compte de L'Actualité.
Mais c'est pas des vrais mots de passe, c'est des mots de passe sachés, fait que c'est comme inviolable.
Et voilà, maintenant qu'on est en 2019, ils le sont. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas facilement visibles à première vue, mais ça n'a pas pris de temps que, quoi, ça a été quasiment la moitié qui ont été décodés rapidement.
Oui, parce qu'il avait dit dans un épisode précédent, on avait un collaborateur du Hackfest avait réussi à trouver en une demi-heure, je pense, la moitié, en tout cas un nombre assez important de mots de passe. Donc, la fiabilité est discutable.
Tout comme l'utilisation des mots de passe, où ce que, encore une fois, faut souligner le fait que des mots de passe sont faciles à deviner quand que le mot utilisé est facile, qui fait partie d'un dictionnaire, etc. Mais donc, si je reviens à la correspondance de L'Actualité qui est apparue, cette correspondance-là mentionne encore une fois les faits, mais on distorsionnait un peu la ligne de temps parce que dans les faits, l'enquête, plutôt la fuite d'informations, les a été apportée, non pas le 15... On disait-tu le 15 du mois? Mais bien, attends.
En tout cas, c'est lors de l'enregistrement de l'épisode 120 que ça avait été, qu'on l'avait mentionné, oui.
Et par avant, je veux dire, Damien, il avait déjà détecté cette fuite d'informations-là parce que c'est des données qui datent de quand même quelques années. Mais à ce moment-là, L'Actualité avait. Puis ils ont même nié au début de d'avoir rapporté l'information. On niait que c'était de l'information actuelle. Oui, dans le temps, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais il reste toujours bien, c'est de l'information qui a été vérifiée comme étant de l'information vraie. Le vrai monsieur répondait au vrai numéro de téléphone qui a été appelé.
Ben, pas actuel, c'est-à-dire, tu changes rarement de numéro de téléphone, on change rarement de nom, puis on change rarement d'adresse. Donc, même si l'information a été trouvée il y a déjà un certain temps, elle demeure d'actualité, elle demeure encore valide probablement pour une grande majorité des gens qui sont sur cette liste-là. Donc, c'est joué un peu sur les mots, là.
Voilà. Fait que c'est pour ça que c'était bizarre. Et donc, dans la lettre qu'il a envoyée aux gens, il mentionne qu'ils prennent au sérieux, évidemment, la fuite d'informations. Parce qu'au début, ça n'a vraiment pas été pris au sérieux. Puis c'est ça que je trouve qui a été dommage. Ils ont vraiment pensé qu'on était une gang de Yahoo, qu'on voulait juste distribuer de l'information juste pour faire mal à l'organisation, alors qu'on a rapporté, on a rendu un service public, là. On a rapporté une fuite d'information. Et cette fuite d'information-là a été mal gérée dès le début par cette organisation-là parce qu'ils n'ont pas cru à ce que, possiblement, l'information était véridique. Ils n'ont pas fait de vérification. Puis il y a même des articles de journaux qui ont changé par rapport à notre explication qu'on leur a apportée, là.
Tout à fait. Mais le problème, c'est que l'information est devenue publique. Si là, ça avait été une fuite privée, disons, dans le dark web, ou des choses comme ça, je peux comprendre un peu la résistance, un peu ce qu'il y a, mais là, dans ce cas-ci, c'est pas justement, comme tu dis, on voulait pas nuire à la réputation, mais l'information était publique dans un site public et dans lequel on avait un effet réel sur la vie des gens. Là.
Fait que c'était n'importe qui, en fait, qui avait accès à cette information-là, exactement.
Tout à fait.
Devant ça, Nick, ce que j'amène, là, c'est que tant mieux, là, maintenant, c'est le commissaire à la vie privée du Canada est informé, donc les autorités sont au courant. Et là, j'espère, en tout cas, pour les 3 400 personnes qui ont été impactées par cette fuite d'informations-là, vont pouvoir se faire donner au moins un 3 à 5 ans de surveillance de dossier de crédit. Pour certains, ils vont peut-être être le 4e, mais...
C'est comme les sentences de prison aux États-Unis, c'est cumulable.
Ouais, s'ils pourraient mettre ça à un bout de l'autre, il y en a qui auraient 15 ans de surveillance. Ça serait pas bête, ça, parce que... Ah oui, sinon, là, ça devient niaiseux, parce que si tu dis à trois fois, ah ben là, tu peux juste t'en servir 4 ans, tu peux pas après, ben non, mets-la après, à la suite de l'autre. Mais c'est ça. Au moins, c'est connu, l'organisation, et le message à passer à tous les responsables d'organisations, de sociétés, Ben, c'est qu'il faut assumer ses responsabilités en toute part lorsqu'on a de l'information qui est identifiée à l'organisation. Ça veut pas dire parce que dans ce cas-ci, c'est, ça appartenait à Rogers dans le temps de la fuite. Et là, ça appartient à un autre consortium, mais il reste pareil, c'est des gens qui se sont abonnés au produit qui est l'actualité.
Tout à fait. Ben ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être un débat intéressant de voir le changement de propriété. Donc, le changement de responsabilité. Puis je pense que l'acheteur demeure responsable de tout le patrimoine de ce qu'il a acquis.
Là. Là-dessus, là, quelque part dans les dossiers légaux, ouais. Mais ça doit être écrit là-dessus.
Bref, changeons de sujet. Comme nous sommes en campagne électorale au Canada, ben on a des petits... on l'a soulevé dans certains épisodes, mais on ressoulève encore... tu mentionnais que tu avais vu un budget dans les institutions, le ministère des institutions démocratiques qui permettait une certaine forme de sensibilisation du citoyen et semblerait qu'il n'y a pas d'action liée à cette information.
Mais la ministre Wood, à la fin janvier, a mis de l'avant cette initiative-là pour un programme qui était identifié à faire de l'éducation à la population sur comment se protéger de la fausse influence durant le processus électoral, durant la période électorale. Et un enveloppe de 7 millions identifiée, donc on parle de janvier 2019, on est rendu, Nick, octobre. Et moi, j'ai pas vu d'annonce, en tout cas, ni non plus vraiment que le ministre soit mis de l'avant et dit « voici le programme qu'on a ». Parce que j'étais très curieux de voir comment ce qui était pour articuler justement l'utilisation de ce 7 millions de dollars-là. Et ma question, je l'ai lancée à l'institution démocratique, autrement dit à la ministre Gould. Ça fait 3 semaines, toujours pas de réponse. Ils doivent être bien busy dans la période électorale. Faut être compréhensif, n'est-ce pas? Ce que je m'attends d'avoir, donc, c'est de comprendre, un, aussi que ça a été utilisé, deux, par qui. Puis si c'est juste une annonce bidon, puis qu'après ça, ils ont lancé l'utilisation de cet argent-là à l'interne, c'est assez ordinaire.
Ouais, ben, si ça sert à aider le citoyen, je pense qu'on n'a pas de preuve que ça l'a été fait. C'est un peu dommage. Puis on revient toujours sur le fait que c'est important de diffuser nos efforts de sensibilisation puis que d'être fier de ces choses-là. Je serais assez trop
ça. Je m'attendais que le présent podcast ait une enveloppe de 700 000 $ au moins qui lui soit octroyée pour donc moderniser ses équipements. Tu sais, là.
ça, oui. J'aurais apprécié ça pour nous aider à avoir de meilleurs micros et de meilleurs équipements.
Mais voilà. Se bâtir un studio, m'amener, là, faut le faire.
Oui. Ça fait ça, on est un outil de sensibilisation, donc.
Exactement.
Hein? Bon, voilà. Enchaînons avec un autre sujet par rapport à ça, le débat des chefs, puis tous les débats des chefs jusqu'à présent, le sujet de la protection des informations personnelles a été cruellement absente.
Oui, et surtout celui d'hier à la télé anglophone à CBC, donc le débat des chefs a été encore là sur des sujets du passé, on peut-tu appeler ça comme ça? Oui, contemporain, mais des vieux sujets. Donc, avec qu'est-ce qui s'est passé, peut-être on va le revoir au prochain débat francophone de Radio-Canada cette semaine. Peut-être qu'on va le voir là plutôt l'emphase, l'accentualisation sur la protection des données personnelles. Parce que ce que je m'attends des partis politiques, des chefs, c'est vraiment un engagement ferme et clair quant au plan qu'ils ont pour être capable de, je veux dire le terme amieuter, mais améliorer vraiment la protection des données personnelles qu'on fait au Canada parce qu'on est vraiment rétrograde. En bien des égards, en bien des fronts. Et surtout, si je le compare avec le RGPD en Europe, on n'a pas de mordant ici au Canada. Et j'apporte toujours la comparaison avec Ashley Madison, 38 millions de personnes impactées. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de l'enquête? Tape ses doigts. Tape ses doigts pour dire, les Australiens et les Canadiens ont dit, ben là, ils vont corriger X, Y, Z procédure. Ils vont s'assurer de nous dire qu'est-ce qu'ils font. Il y a un changement de direction. On est satisfait. Ça a été vraiment ça la conclusion.
Ouais, puis les dommages pour les gens sont réels. Pis c'est ça. Puis le problème, on revient souvent là-dessus, les dommages sont réels. Puis il n'y a pas d'action qui, mettons, rééquilibre la force des pouvoirs dans ce cas-ci pour mieux défendre le citoyen qui est désarmé face à ça. Fait qu'on se retrouve encore dans un vide juridique et réglementaire qui vient... Bref.
Oui, c'est le citoyen, je sais pas, Nick, t'en croises aussi des gens là qui te posent la question, là, qu'est-ce que je fais pour me protéger?
Oui.
Cette semaine, j'ai une dame de 78 ans qui m'a écrit, là, pis ça n'a pas rapport à de l'ETI, mais elle était victime de Capital One, donc fuite d'informations personnelles, puis elle écrivait qu'elle n'était pas capable de comprendre le langage qui était utilisé dans ce que les compagnies de protection de dossiers de crédit, donc TransUnion dans ce cas ici, lui proposaient de faire. Fait qu'elle demandait de l'aide. Fait que je ne sais pas comment y répondre encore, sérieux, là. Et donc, beaucoup de questions depuis les derniers mois affluent dans ma boîte de courriel pour demander de l'aide comme ça, comprendre la situation. Ouais. Et c'est malheureux, mais la population est laissée elle-même.
Ouais, j'ai la même situation dans mon entourage où je me fais ça régulièrement solliciter parce que les gens sont souvent démunis. Puis on parle pas juste de des personnes plus âgées, même les plus jeunes sont pas une compréhension nécessairement très, très grande de ce que c'est. Là. Donc, mais. Puis enchaînons là, d'une équipe là, multidisciplinaire pour la protection des attaques contre les élections.
C'est une équipe mise sur pied par, encore une fois, la ministre Gould avec la ministre des Institutions démocratiques, qui inclut la GRC, le Centre de sécurité des télécommunications, Affaires mondiales et le Bureau de conseil privé. Ces entités-là ont tous les éléments, ce sont les quatre éléments nécessaires pour être capable d'intervenir envers une influence extérieure envers le processus démocratique canadien pour être capable à ce moment-là d'avoir des élections, faut pas dire le plus peu possible.
Oui, ben, qui atteignent l'objectif démocratique.
Voilà, merci, très bien dit. Et de cette façon-là, parce que je suis intéressé, qui serait quand même pratico-pratique à avoir, donc peut-être un rapport mi-mandat maintenant, parce que mi-mandat, on est rendu pas mal au milieu des élections.
Oui.
Avez-vous perçu de l'influence indue de l'extérieur? Est-ce qu'il y en a des pas fins, pour pas dire une nation quelconque, qui ont tenté de venir influencer le processus électoral? Personnellement, je crois que non. Moi, je suis pas né que t'as pu avoir des perceptions externes, mais...
Non, j'ai pas plus de perceptions que de l'influence, mais justement, l'objectif de l'influence, c'est que s'il n'y a pas de perception possible.
Mais d'accord, les États-Unis, je veux dire, ça a été perceptible, parce que, je veux dire, là, les mauvais Russes, c'est eux autres qui étaient en arrière, mais ils ont eu tellement d'utilisation de serveurs qui n'avaient pas rapport, je veux dire, c'était mal sécurisé à la base, fait que tant pis pour eux qu'ils ont été victimes de ça. Mais ici, présentement, au Canada, moi non plus, j'ai pas eu de vent de quoi que ce soit que ça a été mal utilisé, donc dans la campagne électorale, contre les électeurs, contre le processus. Et tant mieux si c'est comme ça. Là. Puis ce serait le fun, juste les autorités peut-être donner une mise à jour. Tiens, je vais aller au BAP, je vais lui demander.
Tout à fait. Puis de toute façon, on revient toujours sur le fait que l'espace de communication puis ces informations-là est importante, un, pour rassurer la population, puis voir qu'on pose des gestes concrets et qu'on n'est pas juste laissé à nous-mêmes dans ce genre de situation-là. Et terminons sur un dernier sujet au niveau des élections qui est un peu plus, disons, cocasse, puisqu'il y a deux intentions contraires, qui sont deux entités contraires sur les pièces d'identité qui sont exigées et ou interdites lors de l'élection.
Ben oui, donc, récemment, dans vos boîtes aux lettres physiques, vous avez dû recevoir justement un petit tract publicitaire de la part de l'Élection Canada qui vous indique quelle pièce d'identité amener lorsque vous allez aux urnes pour vous identifier. Et ce sont des pièces d'identité qu'au Canada, là, il y a un petit problème. On n'a pas de pièce d'identité nationale, à part le passeport. Ça, c'est la seule pièce légale reconnue. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'on a pour s'identifier? Bien, il est toléré que l'on ait à ce moment-là permis de conduire, l'utilisation de la carte d'assurance maladie. Mais ce qui était, j'ai trouvé ça fascinant, c'est que là, on peut se présenter à une table avec tous les gens d'ailleurs qui travaillent au processus électoral sont assermentés. Donc, ils sont tenus au secret de qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils vont entendre, qu'est-ce qui se passe pour donner justement une confidentialité. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé cocasse que j'étais pour dire, c'est que vous pouvez vous présenter et vous identifier avec une carte de crédit, une carte de débit, certificat ou police d'assurance, chèque personnel, état de compte bancaire, état de compte d'une caisse populaire, bail, carte d'employé, etc.
C'est complètement farfelu.
Ben, c'est parce que tout le monde est là, dans le domaine de la sécurité d'information. On est là à dire protéger vos données personnelles. Même la carte d'assurance maladie sociale est là-dedans, la carte d'assurance maladie, tout ça. Mais on est là à dire protégeons nos informations personnelles. Puis là, voici un processus avec lequel exposer vos données personnelles n'importe comment. Puis ça va vous identifier comme légitime de venir voter. Moi, je sais pas que pour toi, là, mais ça, les cheveux me tombent. Le peu qui me reste.
Oui.
Et après ça, ça prouve encore une fois le besoin d'une carte d'identité nationale, même pas électronique, juste signée et tampée par le gouvernement, dire, hey, ça, c'est toi, citoyen, voici, tu es ça. cette personne-là.
Oui, puis ça serait une belle façon de se débarrasser du numéro d'assurance sociale à ce moment-là comme étant un identificateur unique au niveau national, parce que, un, c'est pas une carte d'identité, c'est vraiment juste un numéro de dossier fiscal.
Exactement.
Fait que faut se calmer avec ce que c'est, puis il faudra avoir, comme beaucoup de pays ont des cartes nationales d'identité qui permettent justement, le passeport sert à ce genre de choses-là, parce que pour l'obtention du passeport, il y a un certain degré de vérification qui est faite et
okay, oui.
qui assure une certaine forme de fiabilité de ce document-là. Faudrait avoir un document équivalent, mais sans être nécessairement un passeport ou quitte à ce que ce soit le passeport qui soit le document qui soit ça, là. Vous avez amené, il faut un document avec un niveau peut-être un peu plus élevé qu'un compte d'hydro ou une preuve que genre je paye des taxes que comme quoi je possède ça. C'est-à-dire, je peux prendre ça chez n'importe qui puis la personne s'en rendra même pas compte.
Exactement. On va se représenter dans plusieurs bureaux de comté, puis si on apprend le tel nom dans tel comté, là, après ça, on se manufacture une facture. Là.
Puis c'est pas des documents qui sont très difficiles à forger, donc hein, c'est pas...
C'est pour ça que ça me surprend, là, vraiment, là, Nick. Là, je l'ai amené le point parce que c'est vrai. Il y a eu combien d'incidents de sécurité, de perte d'informations, vol d'identité, puis on a cette ouverture-là pour favoriser le vote. Je suis bien ouvert à ça, mais je trouve qu'il manque de rigueur.
Il y a ça, puis en même temps, est-ce que l'officier de qui va vérifier la pièce dont on a une facture est en mesure de vérifier que la facture consommée est légitime? Puis c'est tout le volet de vérification, puisque nos pièces d'identité, comme le permis de conduire, puis la carte d'assurance maladie, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que ça soit plus difficile à trafiquer. Le cas d'une facture de Hydro-Québec ou de Bell Canada, ils mettent pas ce même degré d'énergie-là pour la rendre non falsifiable parce qu'ultimement, ils s'en balancent.
Pas identifié.
C'est ça. Et ça, les autres, c'est pas leur mission. Donc, puis les autres, ils veulent juste faire un état de compte puis nous permettre qu'on les paye. Fait que c'est sûr que pour se faire payer, ils sont toujours très contents, là.
Exactement. Et voici, c'est ça qui est ironique parce que dans le congrès où ce qu'on est aujourd'hui enregistré, oui. Donc au congrès de l'ISACA Québec, ça porte sur les défis des technologies émergentes, dont les identités numériques.
Oui.
Il y a eu 5 présentations à ce sujet-là. Et c'est ça qui est le point en Belgique, en France, en Estonie, en Brésil, en Inde. Ils ont mis de l'avant, ils ont pris l'initiative. Il y a une initiative canadienne qui a été présentée ici ce matin et que, wow, beaucoup de joueurs, beaucoup de gens parlent qu'ils ont un plan de match. Mais écoute, Nick, je l'ai implanté à Défense. J'ai contribué à l'implanter à Défense en 99. On est 20 ans plus tard. On est toujours au même point dans la population canadienne, alors qu'il y avait déjà un plan en 99 de l'amener jusque chez le citoyen, mais pour une raison logistique qu'on m'a expliqué de m'emmener, ça a arrêté en 2001, tabletté. Fait que on est toujours à cause des départ.
Oui, c'est pas question. En tout cas, on va avoir l'occasion d'en rejaser parce que je pense que comme il n'y a pas de solution qui est apportée, puis comme on l'a déjà discuté dans cet épisode-ci et dans une multitude d'épisodes, ça va revenir tout le temps parce que c'est un problème qui est non résolu au niveau canadien.
Oh fuck non.
Puis ce serait intéressant qu'ils finissent par l'être à un moment donné. Puis comme tu disais, là, au niveau des débats, il n'y aurait aucune discussion de ce côté-là. C'est peut-être parce que aussi les médias ne sont pas intéressés par ce sujet-là, qui n'amènent pas le sujet pour forcer la discussion.
Ben, je pense que c'est déjà entendu dans les sphères du gouvernement, surtout au Québec, le ministère, ayant parlé avec lui récemment, il a ça à son agenda. Mais est-ce que c'est à ce moment-là, vu que l'identité, ça devient une compétence fédérale, vu qu'on parle d'une identité pour le Canada au complet, ou bien ça va devenir une compétence provinciale et juste la province va créer une identité provinciale?
Ben, c'est ce que j'ai compris que le fédéral va pelleter ça dans le cours du provincial dans ce cas-ci, parce que ça lui pue au nez de faire l'exercice, mais est-ce que c'est une bonne façon? Je crois pas parce que faudrait avoir une carte, surtout dans le cas d'élection fédérale, ou dans les cas d'événements nationaux, c'est une carte province.
Mais les coûts que ça va engendrer quand tu déménages. Il y en a qui déménagent d'année en année d'une province à l'autre, là. Hey, combien de temps ça fait? Tu sais, là, ça prend, mettons, 3 semaines, 6 semaines à produire une carte d'identité, puis tu changes à chaque année de province? Pardonne.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, bref, c'est un sujet qui va revenir. On n'a pas terminé d'en parler. Ça va être. C'est toujours, j'ai l'impression, d'être d'actualité pendant un certain temps. Puis, basculons vers des sujets un peu plus, encore en termes d'invasion dans la vie privée. Non, c'est classique. Reconnaissance faciale d'un point de vue national en France. Il y a des projets qui avancent déjà depuis un certain temps. C'est un peu questionnable.
Ben, questionnable, mais inévitable, malheureusement. Le gouvernement français, ça fait quand même plusieurs années qu'il étudie la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale à des fins de documentation surtout, évidemment, officiellement, d'authentification des gens dans tous les aspects publics, donc de l'appareil gouvernemental. Et tout ça aussi, ça va dans l'optique que le gouvernement américain le fait de plus en plus. On en parlait juste après. Et l'idée là-dedans, c'est qu'est-ce qui force le gouvernement à faire une documentation si serrée? Puis je dis le mot documentation parce que normalement, on est enregistré comme citoyen dans un pays. Le gouvernement connaît d'où on est, qui on est. Pourquoi il y a besoin de davantage de connaître, systématiquement reconnaître nos visages où qu'on va? Il y en a qui vont dire, c'est pour hors de tout doute, être certain que tu es toujours la bonne personne, puis que c'est unique, qu'il n'y aura pas de falsification ou quoi que ce soit. Peut-être. Mais il reste que si la caméra à l'aéroport est un point d'entrée et de sortie qui est quand même convoité, puis là, tu n'as pas le choix de passer toujours dans les petits corridors étroits pour te faire identifier, mais ça veut-tu dire qu'une année dans la rue, ça va être déployé, comme on le voit dans certains pays, que ça devient un système de social et en même temps de conformité sociale. Parce que, comme en Chine, en Équateur, l'Équateur a acheté ce produit d'identification sociale-là de la Chine. La Chine, ils l'ont gracieusement installé tout ça, le centre des opérations, les caméras, former le personnel en échange de droits de minier dans le pays et de d'autres revendications comme ça. Fait que donc, le gouvernement, c'est-tu vraiment là qu'il veut s'en aller avec son idée d'avoir de reconnaissance faciale, donc faire un contrôle plus serré de la population, ou bien c'est vraiment pour faire une authentification positive des gens? Bien, si c'est le cas, on revient à notre question, à notre sujet précédent. Commençons par le début avec une carte d'identité nationale. Puis après ça, on pourra l'accoupler avec, le complémenter, je devrais dire, avec la reconnaissance faciale. Il me semble que ça serait logique là, comme déroulement.
Ça serait une façon, mais tu sais, c'est très troublant. Parce que même les Américains puis les Anglais utilisent des caméras de surveillance et font de la réassociation des informations biométriques du visage pour réussir à remonter tout ça. Donc, où on s'en va? Est-ce qu'on s'en va dans une société totalitaire comme on voit en Chine où ils surveillent les gens de façon constante, où on croit encore à la liberté individuelle et un certain degré de non-surveillance de nos activités dans l'espace public?
Encore la semaine passée, il y en a un que parce qu'il a critiqué la parade militaire, il s'est fait ramasser. il n'est plus en circulation, là. Il est vraiment en détention. Puis, c'est juste encore là une image que médias sociaux, surveillance faciale, font en sorte que, t'es un peu, là, le mot liberté, veux-tu dire quelque chose? Et le mot de vie privée, veux-tu dire quelque chose?
Ben, c'est ça, c'est où on s'en va avec ça? C'est quoi nos objectifs? Puis est-ce qu'on va vraiment à la bonne place avec tout ça? Est-ce que finalement, c'est pas juste des outils de contrôle qu'on se fait imposer sans même ça? S'en rendre compte, puis...
Ben pour ça, comme citoyen, il faut questionner nos élus et aller cogner à leur bureau puis dire, monsieur, madame l'élu, c'est pas pour ça que je suis ici, je travaille. Je vous paye votre salaire avec mes impôts pour que vous défendiez mes idées. Voici mes idées, mais il faut les faire valoir.
Ouais.
Combien de fois je vois dans des assemblées publiques, les gens, ça bitch sur Facebook, sont des centaines à dire, oui, t'as raison, madame X, t'as pas d'affaires. Ben, venez en parler au conseil, que ce soit le conseil de ville ou à l'assemblée du député. Toujours 2-3 personnes, pas plus. C'est ça qui la crédibilité du processus démocratique.
Oui.
S'il y a personne qui s'intéresse au processus démocratique, ben le totalitarisme s'installe progressivement.
Par lui-même, sans même qu'on s'en rende compte, puis voilà. Dans une certaine forme de confort dans lequel on avance, parce qu'ultimement, c'est confortable, ça, c'est facile, c'est pas compliqué,
voilà.
C'est facile, en tout cas, bref. Puis, terminons sur encore la reconnaissance faciale, dans ce cas-ci, dans du dédouanement à l'aéroport de Québec.
Bien, l'aéroport de Québec veut vivre justement une certaine autonomie permettant aux voyageurs en partance de la ville de Belleville de Québec d'aller à l'extérieur en vacances. Mais pour ce faire, aux États-Unis, il faut qu'ils descendent à Dorval, si mon souvenir est bon, ou bien qu'il y a un transit qui est fait, il faut qu'ils passent le dédouanement à partir de Montréal. C'est un peu ça que certaines personnes, mais dont le président, le directeur de l'aéroport de Montréal, dit. Il veut amener justement que le dédouanement se fasse ici à Québec, mais au coût de 75 millions qui a été estimé, ce dédouanement-là. Et pour réduire la facture, on propose à l'aéroport de Québec d'avoir un dédouanement avec de la reconnaissance faciale. Autrement dit, si le visage d'une personne d'intérêt figure sur la no-fly list américaine, les lumières vont partir et la personne ne pourra pas quitter Québec. OK. Mais que fait les Américains avec la photo de la personne avant de partir, si la personne est légitime, peu importe? Est-ce qu'il y a une entente avec le commissaire à la vie privée du Canada comme quoi que les photos documentées par la douane américaine sont retirées après un certain temps? J'avais déjà lu que oui, mais j'ai des doutes.
Ouais, je suis pas convaincu. L'appétit de surveillance des Américains ne laisse pas présager ce genre de choses-là. Ça serait dommage qu'on soit pas capable de se défendre face à ce genre de situation-là, mais dans tous les cas, il faudra avoir un texte clair sur le fait que l'information n'est utilisée que pour la fin qu'elle est destinée, un peu comme toutes nos lois. De toute façon, les lois de protection au Canada sont de cette nature-là. Si tu utilises un document en dehors de sa fonction initiale, tu ne peux pas. C'est juste non autorisé selon nos règles. Est-ce que les Américains font la même chose? Est-ce qu'ils permettent de tracer qu'est-ce qui se passe aux frontières, aux autres? Est-ce qu'ils nous fichent finalement? Fait que finalement, ils savent qu'on a décollé à tel endroit, puis qu'on a atterri à tel endroit, puis quand on se prend dans la ville, ben les systèmes de surveillance nous suivent, puis voilà. Ainsi de suite. Est-ce qu'on se retrouve dans cet état-là encore une fois? Est-ce qu'on se transforme en Chine?
Là, quelques mois, il y a la compagnie américaine qui fait le scan des plaques et des matriculations.
Ouais. Ça a fuité, oui.
Voilà. Fait que donc, il y a du Canadien qui était là-dedans.
Oui.
Qu'est-ce qui était la conclusion du commissaire à la vie privée du Canada? Est-ce qu'il y a eu vraiment en infraction à la vie privée de citoyens canadiens? On ne l'a jamais su, on ne le saura jamais, probablement. Mais ça met un effet que nos autorités, il faut qu'ils soient un peu plus fermes parce que la donnée, elle se promène à vitesse grand V partout sur la planète. Il faut peut-être juste, encore une fois, affirmer c'est quoi les paramètres. Et si c'est moi qui les a pas en tête, là, parce qu'il y en a des politiques et des paramètres qui sont sur le marché, ben, il faudrait peut-être qu'on se fasse éduquer.
Oui, tout à fait, mais c'est encore là, c'est le rôle de l'État de protéger les citoyens. C'est quand même ça le rôle.
Me semble que j'ai lu ça, oui.
Oui, c'est un peu l'objectif. Puis même si dans l'ère numérique, la nature de la protection a changé, il faut quand même que l'État s'adapte à ce changement-là et protège adéquatement ses citoyens contre tout ce qui pourrait leur arriver, là, dont ça, c'est un des cas qui pourrait leur... puis rebrander notre information, la retrouver dans des bases de données. Puis il n'a pas dit que c'est pas un sous-contracteur américain qui manipule ça, puis t'écoute pouf, une fuite d'informations de Canadiens avec notre visage. Nous, tous les endroits où on a été aux États-Unis, par exemple, puis plus ça trop sur les internets du jour au lendemain.
Non, on n'a pas fini d'en parler, Nick, là, c'est sûr. Là, puis j'aimerais juste que justement les je vais ramener le débat, là. Je vais vraiment faire... je vais vraiment mettre... aller vers mes espions, puis on va aller porter l'information dans le processus électoral. Là. Faut vraiment que ça apparaisse au débat, ça.
Oui, puis il faut qu'il y ait aussi clarté de ce qui se passe avec nos informations. Puis c'est un peu un point... Moi, ça m'achale énormément de ne pas savoir ce qui est fait, que dans le contrat d'utilisation, on n'explique pas. Puis même entre États ou entre compagnies, dans les cas où mon information est manipulée sans que je le sache, dans le cas des douanes, par exemple, puis que ça m'est imposé parce que si je le fais pas, je peux pas circuler. Donc, c'est-à-dire, on peut essayer de refuser, mais je pense que c'est Patrick qui avait essayé de le faire à un moment donné. Puis si tu fais ça, tu passes par le chemin long et pénible d'une fouille et dans une petite cabine. Donc,
Moi, quand ça a commencé, ces affaires de tourniquette-là, là, je dis non, I want to opt out. Puis très professionnel, les gens avec qui j'ai interagi, tu sais, il n'y a pas d'abus de quoi que ce soit. By the book, il expliquait tout ce qui est à faire, tel que c'était écrit dans la façon de faire. Ben, correct. Mais en même temps, tu sais, je ne sais pas si tu as vu récemment, c'est pas trop utilisé dans les aéroports canadiens. C'était déployé à grands frais, faire plaisir à quelques personnes, mais j'en vois plus beaucoup passer dans ce processus-là.
Non, parce que les gens ne savent pas, parce qu'on s'habitue à la facilité. Non, ça
genre, ils ont disparu. Il y en a physiquement, les boîtes ne sont plus dans les lignes de sécurité.
Ah, non.
Tu regarderas ça la prochaine fois que tu iras à l'aéroport.
Oui, oui, oui. Ça va être... Bon, bref. Alors, on va terminer l'épisode-là pour cette fois-ci, là, pour voir encore tomber du totalitaire. Donc... Si vous avez l'opportunité, faites valoir à votre député, faites valoir dans l'espace public que vos informations ont une valeur puis que vous voulez qu'elles soient correctement protégées par l'État. Puis normalement, aux élections, c'est une belle façon d'exprimer ça, donc profitez-en. Et oui?
En terminant, messieurs, dames, n'oubliez pas le Hackfest 2019 qui a lieu ici à Québec le 1er et 2 novembre.
Oui.
Toujours à l'Hôtel Laurier?
Non, c'est pas. Ouais, c'est Plazon.
Total Plaza sur le boulevard. Merci. Ouais. Lisez le site web du Hackfest, donc à hackfest.ca. Il y a plusieurs formations cette année. Enregistrez-vous parce que les formations ont lieu avant le 1er novembre.
Oui.
Donc, c'est important de vous enregistrer correctement. Peut-être qu'il reste de la place. J'ai vu que ça partit assez vite. Là,
Je ne suis pas au courant de la disponibilité. Là.
Mais voilà, la plug est faite.
Et de toute façon, Steve va donner une conférence et je vais également donner une conférence. Donc, si vous venez faire un petit tata, on va être présent.
Beaucoup d'informations vont être là. Ça va être trippant cette année.
Ouais, c'est pas la fin. À la prochaine.
À la prochaine.